Bonjour et bienvenue sur CFM pour cette nouvelle édition des Messagers du Cheval, une émission consacrée aux équidés et à leur univers. Nous vous proposons régulièrement de découvrir des artistes dont les œuvres célèbrent le cheval. Nos amis britanniques sont passés maîtres dans la matière. Parmi eux, il y a bien sûr le grand George Stubbs dont nous avons maintes fois parlé et plus près de nous, Alfred Munnings. C'est donc lui que nous allons évoquer aujourd'hui. Les œuvres de ce grand peintre de chevaux sont peu connues en France, même si les Français ont pu le découvrir lors de l'exposition consacrée au chef-d'œuvre de la collection Paul Mellon, qui s'est tenue à Paris au musée de la chasse du 4 septembre au 2 décembre 2018. Elle s'intitulait Country Life et évoquait ces activités toutes britanniques de plein air que sont la chasse et les courses hippiques, plus connues en peinture sous le nom de Sporting Life. Nous avions d'ailleurs consacré une émission à cette exposition, ainsi qu'à ce grand collectionneur amateur de chevaux et de courses hippiques qu'était Paul Mellon. L'Américain ne va pas se contenter de collectionner les œuvres du peintre anglais, car dès 1933, il lui commandera son portrait équestre sur son cheval Dublin à celui qui deviendra Sir Alfred James Munnings, l'un des plus célèbres peintres britanniques du XXe siècle. Alfred James Munnings est né le 8 octobre 1878 à Mendham Hill, dans le Suffolk, à une époque où les chevaux étaient omniprésents, notamment à la campagne. Son père possède un moulin et l'enfant peut observer les attelages tirés par les chevaux Shire qui viennent livrer du blé. À l'âge de 4 ans, son père lui apprend à peindre son jouet favori, un cheval de bois du nom de Merrylegs. Le jeune Alfred se mit ensuite à faire des croquis de chevaux. Il décrira ces derniers comme, je cite, « mes supporters, mes amis, mon destin, en fait, ma vie est entrelacée à la leur, je les peins, je les nourris, je les monte ». Je pense à eux. Son talent étant déjà apparent, ses parents l'envoyèrent chez la fille du pasteur où il commença à prendre des leçons de dessin. Il a alors 8 ans. Son amour de la vie rurale et de la campagne anglaise ne cesseront dès lors d'apparaître dans ses œuvres. Après des études auprès d'une gouvernante, puis à l'école du village, à la Redenhall Commercial School et au collège de Framlingham, il a 14 ans lorsqu'il entre comme apprenti chez Page Brothers & Co. Limited, un imprimeur de lithographie de la ville de Norwich, où il apprend à faire des affiches publicitaires. Un de ses clients, John Shaw Tompkins, le directeur de Cayley, fabricant de crackers et de chocolat, est tellement impressionné par le talent du jeune garçon qu'il deviendra son mécène et l'amènera en Europe pour lui faire découvrir les musées et les galeries. Parallèlement, il suit des cours du soir à la Norwich Academy of Art. Il y apprend l'art de l'aquarelle avec Gertrude Hofort, pour qui il ne cachera pas son admiration, comme il le soulignera dans ses mémoires. À l'académie, il étudie les chevaux, reproduisant des sculptures comme la tête du cheval du Parthénon et dessinant leur squelette d'après les planches anatomiques de Stubbs et le plâtre du cheval anatomique de Rosa Bonheur. Au bout de 6 ans, à la fin de sa période d'apprentissage, il décide de se consacrer totalement à la peinture. L'une de ses premières commandes sera un portrait pour Tompkins de son père. C'est le dernier portrait, même je dois dire le dernier tableau, qu'il réalise à l'aide de ses deux yeux, car en 1899, il perd la vue de l'œil droit après avoir été blessé par une ronce. Cette même année, alors qu'il est en convalescence, son premier tableau est accepté à l'exposition annuelle de la Royal Academy à Londres. En 1902, il se rend à Paris et s'inscrit à l'Académie Julian où il restera un an. Il découvre alors les œuvres de Claude Monet et des impressionnistes. Leur influence et celle des peintres anglais Gainsborough et Constable se ressentent dans les œuvres de cette époque. De retour en Angleterre, Munnings parcourt la campagne à cheval et peint des paysages, des chevaux et des gitans dont la vie nomade le fascine. En 1908, accompagné d'un jeune gitan, Shrimp, de 7 à 8 équidés, chevaux, poneys et un âne, d'une caravane peinte en bleu et d'une charrette transportant son matériel, il voyage à la recherche de lieux qui l'inspirent, passant des semaines à peindre ses modèles équins et humains en plein air. 1911 est une année importante. Il part en Cornouailles, où il peint aux côtés des artistes qui forment la Newlyn School, une communauté installée à Newlyn, petit village de pêcheurs sur la côte sud de la Cornouailles. L'esprit est le même que celui de l'école de Barbizon en France, où se rassemblaient les artistes qui avaient quitté Paris pour peindre en plein air, à la lumière naturelle. À La Morna, au sud de Newlyn, il rencontre un petit groupe d'artistes dont il devient une des figures centrales. Il y fait également la connaissance de Florence Carter Wood, une élève de Stanhope Forbes, qui s'était installé là en 1884 et était considéré comme le père fondateur de la colonie. Issue d'une famille fortunée, Florence a 10 ans de moins que Munnings, mais c'est une jeune femme instable qui a déjà fait une tentative de suicide. Ils se marient pourtant le 19 janvier 1912 à Westminster. Malgré leur amour commun pour la peinture et l'équitation, dès le départ, leur mariage n'est pas heureux et Florence fait une autre tentative de suicide pendant leur voyage de noces. Munnings chasse et voyage beaucoup à travers l'Angleterre, invité par ses nombreux commanditaires. Florence se sent délaissée en Cornouailles. Elle se lie d'amitié avec le capitaine Gilbert Evans, mais celui-ci quitte l'Angleterre pour le Nigeria. Le 24 juillet, Florence se suicide. Munnings quitte alors la Cornouailles et ne mentionnera plus jamais sa femme. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il décide de s'engager. Mais aveugle d'un œil, il est déclaré inapte. En 1916, il trouve un travail près de Reading dans un dépôt de remonte où il prépare les chevaux arrivant du Canada avant de monter au front. En 1918, il est choisi pour devenir l'artiste de guerre officiel de la brigade montée canadienne. Il peindra entre autres de nombreux portraits de généraux canadiens de leur monture, dont le général Jack Seeley et son cheval Warrior. Pendant la guerre, il couvre ses carnets de croquis de chevaux. Toutes ses œuvres mettent en avant la contribution cruciale des chevaux lors du premier conflit mondial. Parmi ses tableaux, on peut citer la charge de l'escadron de Fleur-de-Dieu, dernière grande charge de cavalerie lors de la bataille de Moray Wood, ainsi que Draught Horses Lumber Mill in the Forest of Dreux, montrant le travail des chevaux de trait utilisés par le Canadian Forestry Corps, un corps logistique créé pour fournir une grande quantité de bois sur le front. Ces bûcherons abattaient des arbres en Angleterre, en Écosse et en France, où les troncs étaient sciés et transportés. 45 de ces tableaux de guerre seront exposés en 1919 à la Royal Academy de Londres, ce qui lui vaudra une reconnaissance internationale, et plus encore lorsque la princesse Alice, petite fille de la reine Victoria, lui demande de peindre le portrait de son mari, le comte Afflin, à cheval et en uniforme, sur les terres du château de Windsor. Nous allons maintenant écouter « Mad About the Boy », une chanson de 1932 écrite par le célèbre homme de théâtre et compositeur Noël Coward, interprétée ici par l'actrice Jessica Biel.
I'm mad about the boy. I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it. But must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cat about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a schoolgirl in the flurry of her first affair. Will it ever cloy this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again.
Après le retour à la paix, Alfred Munnings reprend ses activités d'avant-guerre, voyageant à travers l'Angleterre et en France pour aller peindre ses mécènes et leurs chevaux. Deux marchands d'art écossais ont acheté presque tous les tableaux qu'il avait peints avant la guerre, ce qui lui apporte une sécurité financière et lui permet d'acheter une maison, Castle House, à Denham, dans le Suffolk. La même année, au Richmond Horse Show, il rencontre Violet McBride, la fille d'un instructeur d'équitation de la haute société britannique. Elle participe à une compétition sur un cheval alezan. Il écrit, je cite, « Voilà un sujet à peindre, une belle femme à cheval avec un chapeau de soie et un gardenia, c'est parfait. » Comme Florence, Violet partage avec lui le même amour des chevaux. Tout d'abord, elle refuse de poser pour lui, mais leur relation évolue et elle finit par l'épouser en 1920. Dès lors, Violet s'occupera de toutes les affaires de son mari, ainsi que de la promotion de son œuvre. Munnings peut donc se consacrer entièrement à sa peinture, consolidant sa réputation de peintre de chevaux le plus talentueux depuis George Stubbs. Le couple est souvent séparé, Violet participant à de nombreuses chasses aux renards, Alfred voyageant à travers la Grande-Bretagne pour peindre. L'admiration des talents de cavalière de sa femme l'impressionne. Il écrira à ce sujet « Elle montait toujours ses chevaux avec des rênes lâches, galopant à travers l'Exmoor et tombait rarement ». Pas très loin de Denham se trouve la ville de Newmarket, célèbre pour son hippodrome, l'un des plus anciens d'Angleterre car il fut fondé en 1636. Alfred et Violet Munnings s'y rendent régulièrement pour assister aux courses. Ils n'y vont pas pour parier, mais pour admirer les chevaux et profiter de l'ambiance parmi les professionnels comme les turfistes. « Chaque départ était pour moi une nouveauté », écrit-il, « rencontre après rencontre, année après année ». Les chevaux attendant les ordres pour partir sont un de ses sujets de prédilection. À une époque où les boîtes de départ n'existaient pas, il immortalise l'énergie contenue des chevaux, la tension des jockeys, alors qu'ils s'apprêtent à s'élancer sur la piste. On met même à sa disposition un des anciens bâtiments utilisés autrefois pour panser les chevaux et qui apparaissent sur les tableaux de Stubbs. Munnings y organise un studio quand il peint à Newmarket. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les courses étant suspendues, le peintre va continuer à les peindre à partir d'esquisses et d'études réalisées précédemment. Castle House ayant été réquisitionné par l'armée en 1939, il passe avec sa femme la guerre dans le Somerset, peignant également les paysages de ce comté. En 1944, il est élu président de la Royal Academy of Arts et est anobli la même année par le roi George VI. En 1949, lors du dîner de gala qui signait la fin de sa présidence au sein de cette institution, cet homme qui ne mâchait pas ses mots et qui aimait bien les alcools forts a attaqué le modernisme dans un discours demeuré célèbre car diffusé en direct par la BBC. Pour lui, en effet, la beauté de la nature est ce qu'il y a de plus important. Un bon tableau doit refléter l'observation et la représentation soignée de la nature, ce qui est aux antipodes de l'art moderne. Les œuvres de Picasso ou de Matisse lui étaient donc complètement étrangères. Même s'il fut soutenu à l'époque, ses prises de position lui valurent une certaine disgrâce. Après avoir pris sa retraite et peint les plus grands de ce monde, comme les Astor, les Rothschild, les ducs de Marlborough et de Westminster, le duc de Windsor, oncle de la reine Elisabeth II, ainsi que cette dernière avec son cheval Auréole avant sa victoire dans la Coronation Cup à Epsom en 1954, Munnings ne se consacra plus qu'aux seuls chevaux, aux courses et aux paysages, qui restent les sujets de la majorité de ses derniers tableaux. Au cours de sa vie, il aura possédé 34 chevaux. Les gris avaient sa préférence, comme il l'écrit dans son autobiographie « An Artist's Life ». Les chevaux gris font mon bonheur, ils stimulent mon imagination dès que je les vois. Et en parlant de sa chemise grise, il écrit « Dans mon esprit, elle demeure la même créature pleine de vie qui m'est apparue il y a longtemps, avec ses oreilles nerveuses et bien dessinées, sa longue encolure, ses jambes noires et ses tendons secs avec un postérieur droit blanc. » Il avait acheté cette jument en 1913 à Dublin, grâce à l'argent gagné suite à la vente de ses toiles aux Leicester Galleries de Londres. Avec l'aide d'un marchand de chevaux expérimenté, elle ne lui coûtera que 33 guinées, ce qui lui permit également d'acquérir un cheval B, Patrick. Alfred et Violet Munnings ne cesseront de monter à cheval. Un tableau célèbre les représente, « My wife, my horse and myself », qu'on peut traduire par « Ma femme, mon cheval et moi-même ». Le cheval que monte Violet n'est pas gris mais B. Il s'appelle Anarchiste et a été élevé en Normandie avant d'être dressé par un instructeur de Saumur. C'était un cheval d'obstacle. Ils se tiennent au centre du tableau, devant Castle House, et sur la droite, on peut voir Munnings qui tient d'une main sa palette et de l'autre une représentation de ce même tableau. Violet monte en Amazone. Munnings admirait ses cavalières. « J'aurais aimé avoir peint plus de femmes montant en Amazone avant que cette mode ne disparaisse », écrit-il. une silhouette dans un habit bien coupé et l'essence de la grâce et de la symétrie. Mais monter à cheval comme cela ne devait pas être confortable. La génération passée l'a peu à peu abandonné et monte à califourchon. Si la cavalière est expérimentée, son assiette à califourchon est bien plus agréable pour le cheval. Le peintre réalisera 3 versions de ce tableau avec 3 chevaux différents issus de son écurie, Anarchiste que nous avons déjà cité, Rufus et Masterman. Sir Alfred Munnings meurt dans son sommeil chez lui le 17 juillet 1959. Ses cendres sont enterrées à la cathédrale Saint-Paul à Londres. Après sa mort, Lady Violet brûla tous les tableaux que son mari n'avait pas achevés afin de préserver son œuvre. Puis, en 1962, elle créa un trust afin d'établir un musée, Munnings ayant souhaité que ses tableaux et le domaine soient laissés à la nation. En 1965, Violet transforma Castle House en musée où sont exposées 650 huiles et aquarelles de son mari, ainsi que ses archives qui comprennent des carnets de croquis, des catalogues, des articles de presse, de la correspondance, des photographies et des livres. L'intérieur demeure inchangé, on y trouve les meubles originaux, de nombreux objets ayant appartenu aux Munnings, ainsi que les pinceaux, les peintures et les accessoires qui se trouvent dans l'atelier. Alfred Munnings fut un artiste prolifique, plus de 4000 de ses œuvres sont exposées dans des musées, des galeries ou dans des collections privées dans le monde entier. Espérons qu'un jour nous aurons l'occasion de voir une rétrospective de ses œuvres en France. C'est la fin de cette émission. Bonne semaine à toutes et à tous et à bientôt sur CFM.